Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio. Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne bien sûr. Et on est ravis avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h à 18h. On rappellera juste avant d'annoncer le sommaire comment nous suivre, bien la bande FM, le 91.3, depuis le mois de juillet 1997, le 10, hein, si on voulait être plus précis pour les premières émissions. Vous pouvez également nous suivre via notre site odoradio.fr, comme tout site internet bien sûr. Il vous permet bien d'avoir des infos sur la radio, des reportages, nos coordonnées, l'agré des programmes et surtout la possibilité, ou entre autres plutôt que surtout, et entre autres la possibilité de venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions. C'est un service gratuit, j'insiste là-dessus, donc n'hésitez pas. Et c'est très intuitif, en deux clics, vous pouvez entendre donc l'émission que vous voulez, soit partager à vos proches ou vos amis. Et troisième vecteur de communication, si vous êtes en métropole bordelaise, équipé d'un poste récepteur de radio numérique terrestre, voilà, vous avez certainement vu cet acronyme en anglais, DAB ou DAB+, bien c'est la radio numérique terrestre. Et si vous avez les postes adéquats, vous pouvez nous suivre, mais attention, là également une zone géographique très précise, voilà, c'est la métropole bordelaise. Allez, ce rappel récurrent réalisé, tout de suite le sommaire du journal et du magazine à suivre sur la partie journal en ce vendredi 3 avril. Ce sera donc Bastien qui va nous décliner quelques brèves d'infos. Ravi de retrouver Anthony, Sylvie et Marion. Voilà, ils sont comédiens, la troupe Les Potes au Feu de la Rampe. Voilà, on fait un petit coucou à tous les autres comédiens bien sûr. Et ils seront en spectacle vendredi 17 avril. Ce sera à l'espace Simone Signoret à ce nom pour Voyage, mais on va en parler avec nos invités avec force détail. Pour la partie musicale, eh bien on écoutera un cover. Voilà, alors c'est un enregistrement live qui a été pris comme cela, c'est pas du studio, mais c'est histoire également bien de les saluer et de parler de leur concert de ce vendredi soir. Ça sera du côté de Castelnau de Médoc, voilà, pas du côté, même à Castelnau du Médoc au Vivier, et un concert ce vendredi soir. J'en profite pour annoncer ou rappeler que notre journal du jour sera diffusé, rediffusé lundi 6 avril férié. Voilà, alors pour cette info, elle ne sera plus d'actualité, mais comme on les soutient, qu'on est partenaire, voilà, je tenais quand même à les diffuser. Et il y aura d'autres dates bien sûr de concerts, ça c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. D'autres dates à suivre, voilà, et juste en suivant, je vous ferai peut-être deux ou trois infos sur l'agenda. Et comme tous les jeudis, on retrouvera le magazine juridique et social intitulé Nommé Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. Et aujourd'hui, la thématique sera une revue d'actualité qui va réaliser notamment bien sur la transaction, vous comprendrez tout. Dans l'émission, bien sûr, le magazine tout à l'heure, mais tout de suite, pour ouvrir notre journal en ce vendredi, également rediffusé, vous avez bien compris, ce lundi 6 avril, et bien c'est donc Bastien qui va nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Bastien.
Bonjour Joël, bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est parti pour ces brèves du vendredi 3 avril. On commence ensemble au Bousca, où un appel à la solidarité est lancé. En effet, une collecte de dons du sang est organisée par Dons du sang Bousca Bruges. On rappelle vite fait que près de 3 millions de dons de sang sont collectés chaque année en France, avec environ 1,6 million de donneurs. C'est donc l'occasion de faire un geste simple et utile. Ça se passe vendredi après-midi de 15h à 19h au domaine du Grand Darnal. On prend ensuite la direction de Senon, une rencontre pour découvrir les métiers du soin. La mission locale des Hauts-de-Garonne propose un temps d'échange avec des professionnels comme des auxiliaires de vie ou des aides-soignantes. Au programme, quiz, vidéo métier et immersion en réalité virtuelle pour mieux comprendre les formations et les pratiques du secteur. Le rendez-vous est dans l'après-midi ce vendredi, de 14h à 16h30. Ensuite, toujours à ce nom, un accompagnement pour faciliter les démarches administratives. En effet, le PLIE, P-L-I-E, des Hauts-de-Garonne et Association Atelier Graphite, proposait ce matin, des permanences d'écrivains publics numériques. Un service d'aide individuelle pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne, CAF, impôts, retraite ou encore rédaction de courrier. Une juriste était également présente sur rendez-vous pour lever les difficultés liées au numérique. La permanence se tenait ce matin, de 9h à midi, à la Maison Citoyenne. Et pour finir, si vous êtes passé à côté du parc des Akennes à tout hasard à Lornemont, vous avez peut-être remarqué du changement. Une nouvelle fresque a fait son apparition hier après-midi. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une fresque, c'est tout simplement une peinture réalisée directement sur un mur, souvent à base de couleurs à eau, impliquée sur un enduit frais. Elle est signée par Atelier Bien et s'intitule Bamboo City. On y découvre notamment une mise en scène autour de pandas, dans un univers graphique, inspiré et coloré sur la nature.
Allez, merci Bastien. Voilà, on va juste se déplacer. Merci Bastien pour ces quelques brèves d'infos. Voilà, on est en direct. C'est notre journal de ce vendredi 3 avril et je vais le répéter plusieurs fois. Il sera également rediffusé lundi 6 avril. Comme ça, si lundi vous entendez bonjour, on est vendredi. Vous comprenez. Allez, ravi de vous retrouver. Anthony, Sylvie, Marion, bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, tout va bien? Bon, ravi d'être là. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut juste d'abord annoncer la date, Anthony. Je me rappelle que quelques années, vous avez cette charge par rapport à la communication. Alors, on va développer, on va parler, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on va trouver dans le spectacle. Mais dans les grandes lignes, à minima, nous dire la date et le lieu, même si je l'ai dit tout à l'heure. Anthony.
C'est le vendredi 17 avril à 20h à la salle Simone Signoret à Senon.
Voilà, très bien. Donc là, je ne vous demande pas où vous serez le vendredi 17 avril. Vous serez sur les planches, comme on dit. Alors, Anthony, si vous dire quelques mots, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Donc, comédien, c'est une passion. Hein. Vous êtes tous amateurs, mais c'est une passion. Hein. Donc, chaque année, on remet ça. Et puis, chaque fois, un nouveau spectacle. Hein. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, Anthony, de monter sur scène? Parce que ce n'est pas évident, hein, on se met un petit peu en danger, il faut apprendre un texte. Qu'est-ce qui vous plaît?
Le plus c'est 6 mois de travail. Mais,
ah oui, ça, bien sûr.
Voilà. Et enregistrer toutes les scènes, les scénettes, au moment de rentrer, de sortir, de... Et on n'a pas les mêmes rôles, on a différents
rôles à chaque spectacle.
Ouais, ouais.
Bon, mais ça vous passionne, Anthony,
parce que
chaque fois je le vois, il y a de l'envie. Donc pour un moment, vous manquerez d'être en spectacle, bien sûr. Sylvie, Marion, c'est chacune. C'est la première fois que vous participez à un spectacle?
Non, moi c'est on va dire 4e fois.
Oui, mais il me semble que vous étiez venu. Voilà. Mais après, ce n'est pas histoire de remettre une médaille sur le nombre, parce que ce qui est important, c'est déjà d'oser monter sur scène. Donc, vous qui avez l'expérience, alors justement, Anthony en a dit 2 mots. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que là, vous êtes sur scène. Alors, il faut apprendre bien sûr les textes. Il y a de la mise en scène. On dira quelques mots de Lisiane. Et puis, on apporte du bonheur aux spectateurs. Donc, ça peut être les proches, les amis. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement?
Déjà, on voit d'autres personnes que le travail, on va dire.
Bien sûr.
Et ça permet de, comment dire ça, de faire une activité. Et au moins, moi j'aime bien le théâtre, comme ça permet de faire autre chose, on va dire, dans la vie. Et de voir un public, du moins, devant moi, ou devant nous. Parce que,
bien sûr, vous êtes toute une équipe.
Voilà, donc, nous on est 9 dans l'équipe et... On s'entend bien, on est un bon groupe.
Faut le dire, faut l'affirmer, vous avez raison.
Oui, on est dans un bon groupe et on s'entend bien. C'est ça qui est le plus important.
Et puis vous passez de bons moments. Hein.
Voilà.
Certes, il y a du travail.
Et voilà, et le vendredi, on se voit tous les vendredis de 15h30 à 17h le vendredi.
Donc 1h30. Hein,
oui, c'est... 1h30, oui.
Ça représente quand même beaucoup de temps.
Oui.
Hein. Je pense que des fois ça passe très vite, mais bon, c'est du travail, faut se préparer. Donc tous les vendredis, tout le monde est là. Hein.
Oui, à peu près, oui. Autrement, bon. Oui. On suggère que tout le monde doit être là pour répéter.
Après, si quelqu'un n'est pas là, pas parce qu'on lui souhaite d'être malade ou autre. Voilà, c'est une équipe. Donc 6 mois à peu près.
À peu près, oui, mais de octobre à avril.
Bon, et là, on a hâte que le spectacle arrive, que la date du 17.
Ah oui, ça nous tarde de
se retrouver sur scène, de partager.
Oui, voilà. De faire notre spectacle et de voir le public content de notre spectacle, ce qu'on va faire chaque année quand on fait le théâtre.
Et nouveau spectacle. Hein.
Et nouveau spectacle en plus.
Année. Donc Marion, hein, pour le prénom. C'est la première fois, regardez, essayez de vous rapprocher sur le micro. Regardez, tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est la première fois que vous allez participer à un spectacle de théâtre?
C'est la première fois que je vais... participer à une pièce de théâtre.
Alors bon, il y a de l'émotion, hein, parce que vous voyez, vous allez être sur scène, et là vous êtes à la radio, donc vous inquiétez pas, hein, si vous avez un petit peu de mal à parler, c'est normal, hein, on n'est pas tous les jours devant des micros, donc un petit peu la même question. Là, si c'est la première fois, comment on arrive à être sur scène, enfin aller bientôt sur scène? C'est parce que ça mène plein de belles choses, c'est du partage, c'est retrouver, après peut-être que vous ne connaissiez pas tous. Alors Marion, vous avez dit oui, hein, sinon vous ne serez pas là. Alors qu'est-ce qui vous attire par rapport au spectacle? C'est l'idée de pouvoir jouer devant des amis, des proches. Avec vous, moi, vous inquiétez pas, tout va aller, Marion.
C'est vrai que vu que c'est la première fois que...
Que vous allez participer.
Que hein. Je vais participer. Mm-hmm. Comme a dit Sylvie.
Oui, on peut reprendre.
Comme a dit Sylvie, on a une belle équipe.
Bon, ça va aller, Marion. Regardez, à la limite, je vais vous laisser vous reprendre un petit peu vos émotions, mais vous intervenez quand vous voulez. Hein. Enfin, ce n'est pas un exercice simple non plus, mais on a une équipe. Hein. D'ailleurs, on peut citer les prénoms de... Vous n'êtes pas obligé de citer les... Je vois, oui, c'est vrai. Anthony, il est organisé. Regardez, il a toutes les infos. Donc là, aujourd'hui, vous êtes tous les trois, Anthony, Sylvie et Marion. Et là, on va leur faire un petit coucou, comme ça, s'ils écoutent l'émission, ils verront bien sûr que vous pensez à eux. Alors, Anthony, les autres comédiens qu'on va retrouver le 17 avril.
Katia Arnaud, Stéphane Carlos, Corinne Gallery, Frédéric Galland, Nicolas Gouribon, bon Anthony et Manon Michaudel.
Voilà, sur la fiche, il y a Muriel aussi l'indiqué. C'est bon? Ah, c'est vous. Ok, d'accord. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais je vais prendre l'info en même temps. Bravo, Anthony. Alors, peut-être quelques mots de Lisiane Moreno qui vous accompagne. Alors, elle vous fait travailler. Bien sûr.
Et c'est une chouette metteur en scène et elle nous aide beaucoup.
Parce qu'elle met en scène et du coup, c'est elle sur les répétitions, c'est elle qui...
C'est elle qui gère tout, qui nous apprend les tests et tout, bon, qui nous a mis les papiers pour voir ce qu'on doit apprendre et qui nous suggère le thème et... Le thème de ce qu'on va faire.
Et qui vous aide, bien sûr,
oui,
à chaque
répétition. Et tout. Oui.
Pour vous mettre en confiance, oui. Etc. Alors, voyage. Hein. En tout à l'heure, ouais. J'en rigolais parce que voyage, ça nous évoque, bien sûr, une chanson.
Donc, oui.
Donc, pour vous taquiner, j'avais demandé si quelqu'un pouvait chanter en direct, mais bon, vous n'êtes pas obligé.
On ne la connaît pas. Oh.
Alors, Lisiane, comment ça se passe? Parce que là, ça fait 6 mois que vous répétez. C'est bien cela. Il y a bien un moment où vous l'avez vue, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé d'ailleurs avec elle, Anthony, vous qui êtes un ancien, vous connaissez déjà avec Lisiane?
Oui, parce que...
Sur d'autres spectacles, certainement.
Avec l'ancienne metteur en scène, voilà.
D'accord. Bon. Donc là, ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, un petit peu en amont, vous avez pu la rencontrer. Et c'est là qu'elle vous a présenté, bon, même si vous avez l'habitude d'aller sur scène avec le spectacle chaque année, mais il y a un moment donné où elle vous a présenté le spectacle que vous allez jouer. Parce que chaque fois, c'est un spectacle différent, hein, on insiste là-dessus, Anthony. Hein. C'est pas le même, après, ce serait pas mal, même si vous le repreniez. Donc là, ça s'est passé comment? À un moment donné, elle vous explique peut-être les rôles de chacun, elle vous explique l'histoire. La première fois que vous l'avez vue pour cette année, donc on va dire 2020, 2025-2026, vous rappelez un petit peu le premier contact, c'est de la mise en confiance où on apprend un petit peu à se connaître.
Oui, déjà qu'elle commence par nous faire un peu de, rien au début, des rôles comme ça, mais on ne savait pas trop ce qui se passait. Bon, si, on savait, mais on ne savait pas les rôles qu'on devait avoir.
À ce moment-là?
Oui.
D'accord.
Ouais, et elle nous faisait un peu des exercices comme ça, bon, des fois qu'il y a un rapport ou qu'il n'y a pas un rapport. Et après, à force, on savait à peu près ce qu'on devait faire.
Bon.
Et après, tourner le jour, elle nous a donné les feuilles qu'on devait apprendre sur le thème oui, voyage textes, voyage.
Voilà, quand vous parlez des feuilles, ce sont. Et là, je crois que vous jouez plusieurs rôles chaque fois, non? Après, on va pas tout dire. Hein, s'il faut garder des surprises, attention. Hein. Je voudrais pas qu'on aille trop loin. Ça, on peut le dire ou pas, Anthony? Si vous jouez plusieurs rôles dans le.
Plusieurs rôles sur le voyage voyage.
Mais bien sûr.
Voilà.
Ça, on peut en parler parce que faut en garder un petit peu l'effet surprise. Alors chacun, du coup, vous savez ce que vous allez jouer.
Oui.
Parce que là, on est à, oula, on est à 15 jours. Ça arrive vite.
C'est deux répétitions et le jour J.
Bon, là, on se sent prêt néanmoins.
Oui.
Après, le cœur, il va battre un petit peu plus vite, bien sûr, plus la date va arriver. Après, vous l'avez déjà vécu, ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit stress, mais une fois qu'on l'a fait, c'est un tel bonheur. Et puis, quand vous allez à la rencontre du public, ça peut être des amis, des proches, des parents ou des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc ça, ce sont de riches moments. Allez, qu'est-ce que vous jouez comme rôle du coup? Ça, on peut l'annoncer? Chacun.
Moi, je joue dans l'agence.
Bon.
Dans l'agence et après dans différents. Je joue.
C'est difficile d'expliquer, Anthony, mais allez-y, on a un petit peu de temps.
Je fais plusieurs rôles dans chaque scène. Un employé et après un coach et un.
Bon. C'est ça qui est passionnant, hein, parce que là, vous avez plusieurs rôles. Alors souvent, d'ailleurs, sur les spectacles, il y a de l'humour. Là, il y a de l'humour, c'est des scènes qu'on peut vivre au quotidien. Après, bon, là, si vous êtes coach, vous n'êtes pas forcément dans la vie. Il y a un petit peu d'humour dans le spectacle, il y a des émotions. Bon,
oui,
je n'osais pas poser la question, mais chaque année, voilà, c'est une belle entrée. Donc,
oui, il y a des scènes qui sont marrantes.
Bon.
Voilà.
Bon, et on rigole quand on répète d'ailleurs sur certains moments. Parce que le comédien.
Surtout Marion.
Mais bravo, la délation.
Surtout Marion, on rigole.
Bon, mais Marion, ça y est, bon, voilà, là, voilà, elle a quand même rigolé. Alors Marion, si on rigole, c'est que ça veut dire que le spectacle, il fait sens, etc. Donc, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est les scènes, bien sûr, les paroles, et puis c'est du bonheur quand on rigole dans la vie, parce que je pense que le public, il va le sentir. Alors, ça peut être quoi qui vous fait rire, Marion? Et puis c'est tant mieux, c'est les plaisirs de la vie, le rire, le sourire.
Ce sont les imprévus qu'on a aux répétitions.
Ah bon? Donc c'est pas forcément le texte, ça peut être les imprévus, les improvisations, c'est ça?
Oui.
Bon, donc ça procure du plaisir, hein. ça c'est important vu que c'est le partage. Alors vous, vos rôles à toutes les deux, on peut en dire quelques mots?
Il y a dans un rôle, je fais une hôtesse de l'air.
Bon, ah carrément, voilà. Donc vous êtes sur quelle agence alors? Vous avez une agence de voyage.
Hôtesse de l'air, on va prendre l'avion, bien sûr.
Bon, mais bien sûr, oui, non, mais après, il y a des agences. Je ne sais pas si c'est Air France, si c'est Air Sylvie, je ne sais pas, mais ce n'est pas le plus important.
Voyage.
Ah, mais c'est ça, mais voilà. Vous jouez d'autres rôles, du coup, l'hôtesse de l'air, après,
est-ce
que vous êtes là?
Oui, il y a une pièce où je fais une mamie. Hein.
Bon. Alors, comment on fait? On se déguise ou on prend un
autre accent? Un petit peu.
Bon, après, je répète, il ne faut pas tout dévoiler, hein, faut en garder un petit peu.
On est un petit peu déguisés.
Bon, donc là, on a plusieurs personnages, donc il ne faut pas se tromper. Hein.
Eh oui.
Donc, deux personnages dans la pièce, du coup?
Oh, j'en fais plus.
Ah oui,
même. J'en fais plus.
Bon, allez, on ne va pas forcément tout dire. Marion, alors, qu'est-ce que vous jouez dans la pièce? Sauf si vous ne voulez pas le dire. Hein. On peut ménager le suspense. Mais vous pouvez nous dire quel rôle vous jouez dans Voyage Voyage? On peut l'aider. Hein.
Les aventuriers. Voilà. Les aventuriers.
Ah, alors, dites-moi en plus. C'est que les aventuriers, ce sont les touristes, ceux qui vont voyager,
oui.
C'est ça? Bon.
Oui.
Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la pièce? Là, on a parlé de Lisiane, qu'on salue, tous les autres comédiens. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait rajouter sur la pièce en elle-même, parce que le but, c'est que la salle Simone Signoret...
Venez nombreux à notre spectacle, le 10...
Mais bien sûr, parce que là,
le
il faut remplir...
Le 17 avril, à 20h...
Bon, et là, pour réserver, là, sur les affiches, hein, bien sûr, QR code. Donc là, ça permet de... La joie, Anthony, vous avez également des flyers, des affiches. Voilà, donc nous, on va le partager via nos réseaux. On espère qu'il y aura plein de monde. On en parle aux proches, aux parents, la famille, tous les amis du spectacle. Bon, il faut que la salle soit pleine. Hein.
On va essayer. Hein.
Voilà, on va tout mettre l'énergie. Alors, vous qui avez l'habitude des spectacles, vous rappelez quand on a joué, quand vous avez joué, là, j'ai employé les bons pronoms personnels, quand vous sortez de scène après les spectacles, c'est quoi l'émotion qui vous envahit? Parce que là, émotionnellement, c'est très fort. Hein, le cœur doit battre un petit peu plus vite. Après, il y a toute une équipe autour de vous pour vous mettre en confiance, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on est en spectacle. Et quand on sort de scène, c'est quoi les premières émotions? On est content de l'avoir fait, parce qu'il y a de quoi. Hein.
Oui.
Bah, c'est le fruit d'un travail. Hein. C'est de la passion, de l'envie, mais c'est quand même un gros travail. Hein. Il faut apprendre la scénographie.
On est content quand le public se lève.
Bon, standing ovation, comme on dit in English in the text. Voilà.
J'espère que cette année, il y aura plus de monde.
Bon.
Et voilà.
Ben, on va faire en sorte. Il faut que tout le monde partage. Anthony, les émotions, vous vous rappelez à chaque spectacle, une fois qu'on a terminé, on est content, bien sûr. La première chose à laquelle on pense, d'ailleurs, on se congratule, on est content de l'avoir fait, déjà vous en tant que comédien, puis après dans la salle, bon, il y a des regards que vous allez croiser, donc outre la standing ovation, bon, ça on s'en lasse pas, je présume, ça c'est quand les personnes applaudissent, voilà, pour vous saluer, vous remercier, parce que vous leur emmenez un moment de bonheur, et après c'est quoi, on échange avec le public
Ben oui, on va voir le public et... On a un pot à la fin.
Ah bon, mais ça, je ne savais pas.
Il y a un pot à la fin. Quand
ça, c'est la convivialité.
Il y a un peu à manger, il y a de tout. Et voilà. Des amuse-gueules, comme on dit.
Oh voilà. Ben, c'est le principe. Voilà, vous avez bien travaillé, vous avez apporté, voilà, je ne sais pas combien de temps dure le spectacle, mais c'est un moment
de
tension. On
va dire, allez, 35 à 40 minutes.
Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Parce que là, il nous reste quelques minutes. Venez nombreux. Non, non, mais après...
Venez nombreux nous voir le 17 avril à 20h. Voilà. Et voilà.
Attention, moi, j'ai entendu qu'il fallait dire qu'il y a des réservations.
Et vous pouvez venir sans réservation. C'est, voilà. Il reste des places.
Bon, voilà, mais on va tout repartager. On va partager le numéro de téléphone pour les réservations. Voilà, le visuel, on va le partager. On remercie Céline et Isabelle, hein, je ne me trompe pas pour les prénoms, là, qui vous accompagnent, et certainement d'autres personnes aussi du SAVS. Voilà, est-ce qu'il y a des coucous, des remerciements que vous voulez faire, en dehors, bien sûr, de Lisiane, Céline et Isabelle qui sont là? Est-ce qu'il y a des petits coucous? Non. Ben, au public, il va venir. Hein. Rappelez-le.
Ben oui.
Hein.
Au moins le public, oui.
Le public.
Allez, en tout cas, si on a à peu près tout dit, moi, je pense que vous avez vraiment dit beaucoup de choses. Ravi chaque fois de vous recroiser. Hein. Donc, je pense qu'on se reverra l'année prochaine.
Oui.
Voilà.
Oui,
mais d'abord, on vit l'instant
présent.
Il y a d'abord
ce spectacle, on verra l'année prochaine.
Voilà, ça, ce sont de bonnes paroles. Marion, bravo. Hein, c'est pas évident d'être derrière un micro. Donc, Marion, Sylvie, Anthony, merci beaucoup. Rien qu'au travers de l'interview, on voit la passion, l'envie. Et puis on resalue bien sûr tous les autres comédiens avec qui vous allez partager cette belle scène le vendredi 17 avril à la salle Simone Signoret à Senon. Voilà, alors bien sûr, il faut venir nombreux et nombreux, il faut remplir la salle pour que ça soit un chouette moment. On repartagera bien sûr jusqu'à cette date-là. Voilà, allez, merci à tous. Allez, comme là sur le timing, eh bien, on est bon. Ben, ça me laisse juste le temps de remercier également Nicolas, la régie technique. Merci à Bastien pour la présentation et réalisation des brèves tout à l'heure. Voilà, dans quelques minutes, vous allez retrouver le magazine juridique et social Défendez-vous. Voilà, présenté et réalisé par Maître Paul Cessou, qui est avocat. D'ailleurs, c'est pas faire la publicité ici à ce nom. Voilà, le temps d'une transition musicale avec un cover. Alors, le groupe sera en concert, je rappelle, ce soir au Vivier à Castelnau-de-Médoc. C'est en accès libre à partir de 19h30. Là, si vous allez sur nos réseaux sociaux, bien sûr, on a partagé, on repartagera. Et je rappelle, dernière information, que ce journal sera exceptionnellement rediffusé, outre les rediffusions habituelles de 15h à 18h ce jour, exceptionnellement rediffusé lundi, qui sera férié lundi 6 avril. Voilà, je crois à peu près avoir fait le tour. Eh bien, on se quitte en musique, en suivant Défendez-vous, et puis on vous laissera avec les autres programmes d'Aude Radio, d'Aude Radio, la radio des Hautes-Garonne.
Le magazine juridique et social, Défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aude Radio pour votre émission du vendredi midi, Défendez-vous. Et c'est cette semaine une petite revue d'actualité qui nous conduira à faire un topo sur la transaction. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, je suis en train de réfléchir à depuis combien de temps je la présente. Donc plus de 10 ans, je dirais une quinzaine d'années. Je crois que je n'ai jamais fait de topo sur la transaction. Alors qu'au final, ça reste un acte, pas excessivement courant non plus, mais qui est existant. Alors ça se fait régulièrement entre avocats, mais ça peut se faire. Enfin, entre avocats, dans le cadre d'un litige, donc avec l'intermédiaire d'un avocat, l'intervention d'un avocat, mais ça peut se faire en dehors de ce cadre, ce qui nécessite quelques explications quant aux conditions et surtout aux conséquences. Et ceci en prenant Pour exemple, un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation. Mais petit retour sur la loi de finances pour 2026, dont on a suivi non pas le détail, mais les différentes péripéties, puisqu'elles ont agrémenté notre automne et notre début d'année en matière, surtout, j'allais dire, politique, quant à ces conséquence sur le maintien ou non des gouvernements successifs. On n'a pas tellement parlé du détail pour parler surtout de ces conséquences politiques. Une conséquence qui nous occupe, nous, est la renaissance de la contribution pour l'aide juridique. Elle avait existé, elle fut supprimée, la voici rétablie, entrée en vigueur au 1er mars 2026. On n'attend pas, en vérité, un décret d'application, puisque je n'ai pas vu le décret d'application passer, mais la loi nous dit qu'elle s'applique aux instances introduites à une date définie par décret et au plus tard à compter du 1er mars 2026. Bon, donc voilà. Donc, a priori, pas de décret, ça s'applique à partir du 1er mars 2026. C'est vrai qu'au niveau des greffes, on commence à nous la réclamer dès le dépôt du dossier. Donc, depuis le 1er mars, toute personne qui engage une procédure civile, donc devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'homme, doit payer cette contribution pour l'aide juridique de 50 euros, donc une somme qui est quand même pas modique, donc en sein de toutes les procédures devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil de prud'homme, sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, pour l'État et pour certaines procédures, notamment redressement ou liquidation judiciaire, les injonctions de payer, tutelle, surendettement. Elle s'acquitte par un timbre dématérialisé que l'on achète sur la plateforme dédiée et acquitté donc par voie électronique. Lorsque le justicier n'a pas acquitté sa contribution, alors qui est un avocat, qui n'est pas un avocat, elle va être due. Donc l'avocat a priori va savoir et va prévenir son client. Le client lui qui n'est donc pas client mais qui fait sa requête tout seul, le justiciable qui fait sa demande tout seul, sera informé par le greffe. Il est prévu que lorsque le justiciable n'a pas acquitté la contribution, le greffe l'invite à la régulariser dans le délai d'un mois. Et à défaut de régularisation dans ce délai, le juge peut prononcer l'irrecevabilité de la demande introduite. Donc on voit quand même que la sanction est sévère. On paye 50 euros et si on ne paye pas, action irrecevable. Et on se retrouve dans la nécessité de recommencer et donc de perdre du temps et aussi un petit peu de patience sans doute. Pour une question aussi bête, on rappelle qu'il y a déjà un timbre qui existe de plus de 200 euros devant la cour d'appel et qui persiste, sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en certaines matières, mais qui là est dû par partie, tandis que là ce sont les personnes qui engagent une procédure civile devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme n'est donc pas épargné, alors que, me semble-t-il, il l'était dans la première version de cette contribution d'il y a une bonne dizaine d'années, je ne saurais dire de mémoire. Ensuite, pour rebondir sur une émission relativement récente, bon, peut-être il y a un mois, cela reste récent, où j'avais repris les conditions de la procédure disciplinaire. On avait évoqué le fait que les sanctions pécuniaires sont interdites, c'est-à-dire que on ne peut pas vous dire « Ah, tu as commis une faute, eh bien, pour te punir, je vais t'enlever 100 euros sur ton salaire. » Ça, c'est strictement interdit. C'est d'ordre public. D'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, que ça ne peut pas être autorisé. Il est prévu que rien ne peut y déroger. Toutes les stipulations contraires sont réputées non écrites, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le contrat de travail une clause qui prévoit cela, ça n'est pas autorisé, l'accord collectif, règlement intérieur, ça reste illégal, et à tel point qu'il y a une amende de 3 750 euros qui est prévue en cas de violation de ce principe. Donc les amendes pécuniaires sont interdites, et donc, en conséquence de quoi, l'employeur ne peut donc pas sanctionner le comportement de ce type d'un salarié par une retenue sur salaire ou par une réduction ou une suppression de prime, puisque ça reste un élément du salaire. Et c'est bien la problématique qui s'est posée dans ce dossier. Le contrat de travail d'un rugbyman prévoyait le versement d'une prime mensuelle appelée prime d'éthique, qui était attribuée à condition de respecter un certain nombre de règles, et notamment donc en l'absence de tout comportement contraire à l'éthique du sport, histoire de pousser, j'imagine, les salariés sportifs rugbyman à respecter les règles, en plus de l'arbitrage fait sur le terrain par l'arbitre. Et en l'occurrence, l'employeur n'avait pas versé cette prime à ce salarié, qui, parce qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour avoir, à la sortie du terrain, parce qu'il avait reçu un carton jaune, fait des doigts d'honneur à des personnes qui étaient présentes dans la tribune et face aux caméras, diffusant la rencontre en direct à la télévision, et qu'il avait été mis à pied pour s'être maintenu sur son lieu de travail en état d'ébriété et avoir uriné sur le stade. Bon, on voit là, je ne sais pas le détail, mais une troisième mi-temps qui a été un peu au-delà de ce que le contrat de travail, l'employeur désirait accepter. Quoi qu'il en soit, l'employeur avait prononcé un avertissement, une mise à pied pour ces faits. Et c'est pour ces mêmes faits que l'employeur n'avait pas versé la prime. Alors, contre toute attente, le salarié, donc, qui a saisi le conseil de prud'homme, ça c'est pas contre toute attente, ça c'est assez logique, le salarié saisit le conseil de prud'homme, puisqu'on n'oubliera pas que les sportifs sont liés par souvent des contrats de durée déterminés, avec les clubs. Donc il saisit le conseil de prud'homme, ça c'est pas contre toute attente, contre toute attente par contre, il est débouté par le conseil de prud'homme et par la cour d'appel, ce qui paraît au demeurant assez incompréhensible, puisque assez clairement, c'est vrai qu'en reprenant les choses a posteriori, c'est toujours un peu facile, mais enfin, assez clairement, on lui supprime la prime d'éthique parce qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement, pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'avertissement et de mise à pied. Donc logiquement, ça sautait un peu aux yeux. Pour autant, donc, il perd en première instance et en appel. Bon, il s'acharne, je ne sais pas quel est le montant de la prime, j'aurais dû aller voir si je pouvais trouver l'arrêt de la cour d'appel, mais l'arrêt de la cour de cassation ne le précise pas. Enfin, quoi qu'il en soit, la prime devait être d'un montant intéressant. Donc le salarié se pourvoit donc devant la cour de cassation. Et la cour de cassation, donc là, cette fois-ci, logiquement, constate que le défaut de paiement de la prime d'éthique était justifié par des sanctions que l'employeur avait appliquées en raison de faits qu'il considérait comme fautifs. Et donc à partir de ce moment-là, il s'agissait bien d'une sanction pécuniaire. Dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a donc violé le texte interdisant les sanctions pécuniaires, article L1331-2 du Code du travail. Rappelons que l'interdiction de la sanction pécuniaire n'empêche pas qu'une sanction puisse avoir une conséquence indirecte sur le salaire. Par exemple, quand on a une mise à pied disciplinaire de 3 jours, par exemple, le salarié ne sera pas payé pendant 3 jours, mais ça n'est pas une sanction pécuniaire, c'est la conséquence de la mise à pied, le salarié ne travaille pas, il n'y a pas de contrepartie en salaire. Troisième question qui nous occupera un petit peu plus longtemps aujourd'hui, c'est sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier dernier, qui était relatif à la question de savoir si un salarié peut contester son licenciement malgré une transaction intervenue en cours de contrat de travail. Alors, on est quand même sur des règles particulières en matière de droit du travail. Donc intervenu en cours de contrat de travail, et si oui, dans quelle mesure ils peuvent faire état de faits qui sont antérieurs à la transaction. Mais ça nous renvoie déjà à la première question, qui est de savoir qu'est-ce qu'une transaction il faut se rapporter aux articles 2044 et suivants du Code civil qui définissent les conditions, donc la définition, les conditions et la portée de la transaction. C'est surtout cette question de la portée qui est importante, mais qui nous renvoie évidemment aux conditions dans la transaction. L'idée d'une transaction, en fait, c'est de mettre fin à un litige sans passer par le tribunal. Sans attendre un jugement définitif. On peut avoir une transaction qui se fait tout de suite à l'amiable sans qu'il y ait une procédure qui ait été engagée. On peut avoir une transaction qui intervient avant la survenance d'une décision définitive. Je saisis le conseil de prud'homme et puis en cours de procédure, on se rapproche et on se rend compte qu'en versant une certaine somme, les parties s'entendent et donc on met fin au litige en faisant cette transaction. On peut le faire aussi quand on a eu un jugement du conseil de prud'homme en attendant la décision de la cour d'appel, par exemple. Et donc en cours de procédure. Mais donc l'article 2044 nous explique donc que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. On nous précise que le contrat doit être rédigé par écrit. Ça nous dit quoi? Déjà, il faut qu'il y ait une contestation qui soit née. Ou prévenir une contestation à naître, mais dont on sent donc qu'elle est susceptible de naître. C'est un contrat. À partir du moment où c'est un contrat, on va appliquer les règles du contrat. Donc il faut avoir une capacité et il faut qu'il n'y ait pas de vice du consentement. Ça, ce sont les règles du contrat. Donc pas de violence, pas de dol, c'est-à-dire de tromperie, etc., pour pousser l'une des parties, ou de mensonge pour pousser l'une des parties à conclure une transaction alors qu'elle ne l'aurait pas fait si ces événements n'étaient pas intervenus. On nous précise aussi que donc il faut avoir la capacité de disposer des objets qui sont compris dans la transaction, avec des règles particulières en matière de tutelle. Étant précisé qu'on peut transiger sur l'intérêt civique qui résulte d'un délit. Bon, c'est-à-dire par exemple, quand on vous met un coup de poing et que vous avez deux dents cassées par exemple, quand on est. Donc là, il y a une action pénale qui est l'action de violence et une action civile qui est celle en réparation du préjudice subi du fait d'avoir reçu le coup de poing et donc la réparation d'avoir dû réparer dedans et de s'être fait poser des implants, bridge, etc. Et donc là, l'action pénale, ça, c'est le procureur de la République. Qui s'en occupe, mais l'action civile, ça c'est la victime, et il peut y avoir une transaction sur l'action civile qui n'empêche donc pas le parquet de poursuivre sur le plan pénal, même si parfois en opportunité il peut décider qu'il ne le fait pas. Une condition de validité, il faut qu'il y ait des concessions réciproques. Alors les concessions réciproques, ça veut dire que chacun doit renoncer partiellement ou totalement à une prétention. L'existence de ces conditions réciproques, de ces concessions réciproques, pardon, s'il n'y a pas de concession de chacune des parties, il n'y a pas de transaction, en tout cas la transaction n'est pas valable. Donc cette existence de concession réciproque doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, et les concessions doivent être réelles et pas dérisoires. Donc évidemment, encore en fonction de l'intérêt de l'objet du litige. Mais si quelqu'un dit qu'il renonce alors qu'en fait il renonce à rien, ce n'est au final pas une transaction. Puisqu'il n'y a pas de concession réciproque. La transaction ne s'entend que de ce qui est relatif ou différent qui a donné lieu. Toujours le Code civil qui nous l'indique, elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris. Donc ça veut dire que dans le cas d'une transaction, on va avoir un document qui est quand même très complet, qui explique quel est le litige. Voilà, par exemple, telle personne a saisi le conseil de prud'homme à telle date pour formuler telle prétention. L'employeur, lui, a opposé telle prétention ou tel moyen en défense. Les parties se sont rapprochées et elles ont décidé de telle mesure au titre des concessions réciproques, c'est-à-dire qu'en fait il faut que le document, pour être bien rédigé, mentionne l'ensemble de ces éléments pour que l'on comprenne bien sur quoi porte la convention, puisque ça s'entend puisqu'elle est relative au différent qui a donné lieu, et elle ne règle que ce différent, que les différents qui se trouvent compris. Donc ça veut dire qu'il faut quand même les exposer dedans. Donc ça ne peut guère faire une ligne. Et au final, quels sont les effets de la transaction ? La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Alors, auparavant, on disait que ça avait autorité de la chose jugée. Une loi de 2016 a changé la formulation. En tout cas, ça épuise le droit d'action des parties et fait obstacle à l'introduction à la poursuite entre les parties d'une action en justice à le même objet. Bon, à l'introduction, c'est avant, quand on fait une transaction avant le litige ou lorsqu'on essaie d'en réintroduire un plus tard. Ça va être le problème dans l'arrêt de la Cour de cassation dont je vais parler tout à l'heure. Et donc à la poursuite, c'est-à-dire d'un litige, pas d'une action, c'est-à-dire quand j'ai déjà engagé une action devant une juridiction, à ce moment-là, il est prévu que je vais m'en désister, ou en tout cas, au moins m'en désister sur les points sur lesquels porte la transaction, puisque la transaction peut être comportée. Mais bon, pour autant, l'idée d'une transaction, c'est de régler la totalité du différent. Donc, à la force de loi entre les parties, donc on peut l'opposer. Et si vous avez une personne qui attaque en violation de la transaction, qui ressaisit le tribunal d'un litige qui a été réglé par la transaction, on peut lui opposer justement le fait qu'il y a une transaction pour faire juger que sa demande est irrecevable. On voit donc que ça a des conséquences qui sont quand même importantes, puisqu'on renonce à un droit, à une action en justice, et on renonce, et en contrepartie, de quelque chose, et donc il faut que cette contrepartie ne soit pas négligeable. Synthétiquement sur la question des transactions, donc il faut que ce soit un document bien rédigé, un document précis, qui rappelle dans la mesure du possible les textes, et qui en tout cas rappelle dans sa rédaction, qui fait référence dans sa rédaction aux conditions qui sont posées par les textes, c'est-à-dire bien définir quel est le différent, bien définir quelles sont les concessions, évidemment quelles sont les parties, quelles sont les concessions, et bien définir après quelles vont être les conséquences, même si là elle découle de la transaction, de la loi, mais plus c'est précis, mieux c'est, même si on emploie quand même régulièrement dans les transactions des termes qui peuvent être un peu généraux. Et alors, là, dans le dossier qui nous occupe, on comprendra rapidement la difficulté. Vous avez donc une salariée qui a été victime d'un accident du travail et qui saisit le conseil de prud'homme en 2017 de différentes demandes salariales et notamment de demandes indemnitaires du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et on a une transaction qui est signée le 8 mars 2019 qui met fin à l'instance prud'homale. En 2020, donc un an après la transaction, elle est licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, non professionnelle, pardon, et impossibilité de reclassement. Elle saisit à nouveau le conseil de prud'homme et elle demande cette fois-ci une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, alors qu'elle avait été licenciée pour inaptitude non professionnelle, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que, en gros, elle nous indique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui découle de son contrat de travail, du contrat de travail signé entre les parties, et la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Et au final, on a une cour d'appel on a compris là qu'il y avait une difficulté, puisque la salariée saisit le conseil de prud'homme en 2020, alors qu'elle avait signé une transaction en 2019. Et donc, la Cour d'appel a quand même donné droit à la salariée, a donné raison à la salariée sur la recevabilité de ses demandes, mais a débouté la salariée parce que seuls les faits postérieurs à la transaction devaient être examinés, et il s'avère qu'en l'espèce, cette salariée n'avait pas repris le travail, ce qui fait qu'elle invoquait des faits qui étaient antérieurs à... avec des faits qui étaient antérieurs à la transaction. Et la solution n'était pas nécessairement évidente, on voit qu'on n'est pas le contenu exact de la transaction. L'employeur fait un pourvoi sur la question de la recevabilité, puisque l'action est considérée comme étant recevable. Enfin, c'est la salariée qui fait d'abord le pourvoi. L'employeur fait le pourvoi incident, c'est-à-dire soulève lui la question de la recevabilité. Bon, l'employeur avait gagné, il n'y a pas d'intérêt particulier à faire un pourvoi, mais la salariée fait un pourvoi puisqu'elle a perdu. Donc à ce moment-là, l'employeur fait ce qu'on appelle un pourvoi incident, c'est-à-dire de son côté soulève un autre moyen en contestant l'arrêt de la cour d'appel qui avait, lui, sur le principe, dit que l'action de la salariée était recevable. C'était de bonne guerre, c'était au demeurant pas totalement inattendu de sa part. À partir du moment où la salariée faisait un pourvoi, le fait que l'employeur refasse valoir devant la cour de cassation un moyen de droit qu'il avait lui-même soulevé devant la cour d'appel est assez logique. Et donc il explique, l'employeur, qu'une action qui porte sur la rupture du contrat de travail qui est intervenue après la transaction, c'est des questions, n'est recevable que si elle repose sur des faits qui sont survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction, et si son fondement est né après la transaction. Et la salariée n'avait pas repris le travail, il ne mettait donc en avant que des faits antérieurs à la date de la transaction. Ce n'était pas totalement idiot comme raisonnement, si ce n'est qu'on a un article 1231-4 du Code du travail qui précise que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée son ordre public, c'est-à-dire il est mentionné que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre. Le présent titre, c'est le titre 3 du livre 2 de la première partie, de la partie législative du Code du travail, qui est donc relatif, puisque c'est le titre, à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Donc la question au final était déjà réglée par la loi. Et donc la Cour de cassation, sur cette règle, précise que la renonciation d'un salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue après la transaction. Et un salarié ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat de travail et par avance au bénéfice des dispositions protectrices et d'ordre public. Des articles, donc 1235.3, sur l'indemnité licenciement sur cause salariale, et 1226.14 sur l'indemnité licenciement pour inaptitude professionnelle, qui sont de public, donc en vertu de cet article 1231.4 que j'ai cité tout à l'heure. Restait la deuxième question, qui était la question, donc là, dans la Cour de cassation, sur le pourvoi incident de l'employeur, elle dit non, la Cour d'appel a bien jugé en disant que c'était recevable. Mais restait la question qui était posée par la salariée, puisque la salariée avait été déboutée par la Cour d'appel, qui avait jugé que seuls les faits postérieurs à la transaction devaient être examinés à l'appui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont la salariée estimait qu'il était à l'origine d'une inaptitude, de son inaptitude définitive. La Cour de cassation, critique l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que celle-ci aurait dû prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Et pour le coup, la Cour de cassation casse et donc renvoie devant une autre juridiction qui prendra en considération, en tout cas qui est censée suivre l'arrêt de la Cour de cassation, et qui prendra en considération les faits qui sont évoqués pour savoir si oui ou non il y a un manquement de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude et qui, ici la demande donc de la salariée, est fondée ou ne l'est pas. Donc le parcours judiciaire de celle-ci n'est pas terminé. On a compris que cette personne a saisi pour la première fois le conseil de prud'homme en juin 2017 et qu'on est, c'est une dans le cadre de deuxième action, mais tout de même, encore en mars 2026, en train de juger son dossier. C'est un parcours de patience et difficile à subir quand cela dure si longtemps. Il n'est pas toujours facile de passer à autre chose lorsqu'on a une action en justice. Donc, ceci pour vous souhaiter un bon week-end et à très bientôt sur Audio Radio.